Alors la question de Yoël qui nous vient du Maroc.
Alors, je voudrais savoir quels sont les conseils pour pouvoir prévenir les mariages mixtes, puisque nous sommes en âge de, enfin, bientôt, enfin, nous sommes bientôt en âge de nous marier, donc on aimerait bénéficier de vos conseils.
Voilà, au Maroc, ça se passe relativement bien. Bien que il y a aussi des mariages, il y a en tout cas une fréquentation avec le monde non juif indigène de l'endroit. Le vrai problème avec les juifs marocains et autres juifs sfarades nord-africains, c'est quand ils arrivent en France. En France, c'est pas Fatima, c'est Christine. Préfère leur Alia. En Israël, c'est pas Christine, c'est Tatiana ou Natacha, qui n'est pas juive non plus. C'est le fléau numéro un du peuple juif. Depuis la Shoah, donc la Shoah, le peuple juif a perdu 6 millions de juifs dans des conditions terribles. Depuis la Shoah, le peuple juif a perdu 18 millions de juifs. Trois fois plus que la Shoah. Dans la Shoah, c'est un gaz terrible, cyclone B, qui tue le corps. Et ceux de nos frères donc, qui sont morts dans la Shoah sont à la Kiddush Hashem, en sanctification du nom de Dieu, et leur âme part à l'endroit le plus haut qu'il puisse y avoir dans la divinité, et pas plus haut. Mourir, parce que tu es juif, on ne peut pas te poser la question, même si on ne t'a pas posé la question, et on te tue parce que tu es juif, tu vas à l'endroit le plus haut qu'il puisse y avoir. Le Yetzer Hara a compris ça, il a sorti le système D, les femmes. Christine. D'abord, souvent, elle est blonde. Les pieds noirs, quand tu vois du blond, ça commence à disjoncter. Ensuite, elle ouvre un bouton, ou même deux boutons. Hello. Remarquez que c'est dur d'avoir une fille. Je parle avec une fille, elle peut pas. Elle peut arrêter. Je veux dernièrement, même chez moi, une dame, ne peut pas s'arrêter. Je suis un rave quand même. 100 fois en une demi-heure, comprenez, c'est féminin. 18 millions de juifs sont tombés dans le panneau. Du gaz, du parfum de Christine. Le parfum qui est sorti dernièrement, comment il s'appelle? Il y a un parfum qui est sorti dernièrement, quelques années, je ne l'ai plus. Poison! De qui? Coco Chanel. Dior. Voilà. Qui dans la salle, messieurs, dans sa proche famille, oncle, cousin, neveu, par enfant, j'espère, tout le monde est marié entre juifs. Il n'y a pas de fréquentation avec Christine, Fatima, une Ingrid ou une Tatiana. Qui lève la main? Chez vous, c'est tout entre juifs. 1, 2, 3, 4, 5. Très bon score. 5 sur on est une. Combien? Contre les clipotes. Sur 20. Très bon score. Je peux vous dire, c'est un très bon. Ça fait que 3 quarts des familles sont touchées. Hein? Dans 3 quarts de familles ici présentes, il y a du ou de la non-juive. Du non-juif ou de la non-juive. C'est un très bon score. Très souvent, dans des salles où j'ai 100 personnes, il n'y a pas une main qui se lève. Pas une. Toutes les familles sont touchées. Tu es du Maroc, tu as de la chance. Ok, c'est bien. Toi aussi, origine marocaine. Algérienne, c'est un miraculé. Quand on m'appelle, on me dit, voilà, j'ai un frère, une cousine, quelque chose qui voilà, va se marier avec une non-juive, que faire? Je ne sais pas. Priez. Je ne connais pas d'autre solution. Techniquement, c'est presque impossible. Il ne reste plus que la prévention. La prévention, c'est l'éducation que je donne à mes enfants. Et messieurs, vous qui n'êtes pas mariés, ne croyez pas que l'éducation des enfants commence le jour du mariage. Commence aujourd'hui. Vous êtes ce qui s'appelle des bahourim. Bahourim. C'est quoi un bahour? Jeune homme. Traduction en français. Fausse traduction. Parce que en hébreu, c'est vrai, ça signifie jeune homme. Mais ça vient de la racine bocher. C'est quoi bocher? Choisir. T'es un choisisseur. Juste en passant, c'est très beau. Je vois. La langue sainte, elle est belle. Un embryon, comment on l'appelle? Embryon vient de racine juive. Oubar. Embry. Oubar. Et du mot ovaire. C'est quoi ovaire? Passe, parce que c'est passager. C'est pas ta vie. T'as pas destiné à passer plus de 9 mois dans le ventre de ta mère. C'est passager. Après, tu as tinok, bébé. Et la racine yonek. Il tète. On l'allaite. À l'âge de 2 ans, quand on le sèvre, à l'époque c'est comme cela, il devient yeled. C'est quoi yeled? Un enfant en hébreu. C'est la racine yalad. C'est quoi yalad? Il est né. Avant il n'est pas né. Non, avant il est encore dépendant. Sa mère. Sans sa mère, il est fichu. Et pas le lait maternel. Le lait de sa mère. Donc il est encore dépendant physiquement. L'autonomie physique commence à l'âge de 2 ans quand elle est sevrée. Là, il devient Yeled. Après, il devient, vers l'âge de 11-12 ans, Nahar. Nahar. Je sais pas, il y a un âge pour. Teenagers, on dit ça en anglais, d'accord. Tipesh serait en hébreu. L'âge idiot, d'accord. Tipesh, c'est. Voilà. Na'ar, c'est quoi les na'er ou na'ar en hébreu? Secouer. L'âge de révolte. Il secoue tout ce qu'il a reçu. On ne peut pas lui parler. L'âge de révolte, c'est sain, c'est normal. Les parents idiots, pas intelligents, ils vont canaliser. Pour s'affirmer, il faut s'opposer. Normal. Il doit sentir qu'il est quelqu'un. Après, vers l'âge de 15 ans, il appelait Alem. Alma pour une femme, Alem pour un garçon. C'est marqué souvent dans la Bible. Alem, la racine quoi? Na'elam. He'elem, caché. Voilé. Âge de 15 ans, il ne sait pas ce qu'il veut être. Nous, on ne sait pas non plus. C'est caché, c'est pas clair. C'est l'inconnu. 18 ans. Des fois, de 18 ans à 50 ans, c'est-à-dire on arrive à la maturité. Il y en a qui sont très matures très tard dans la vie. Normalement, entre 18 ans et 20 ans, tu es bahour. Bahour, tu deviens choisisseur. Et là, il faut choisir, parce que c'est la plaque tournante. C'est l'âge où on choisit. Donc, messieurs, vous êtes concernés. Et c'est marqué dans le Télim du roi David. Comme les flèches dans les mains de l'archer, comme ça sont les jours de la jeunesse. Qui a fait du tir à l'arc, ici un peu? Très bien. Alors vous avez des stabilisateurs, n'est-ce pas? T'as l'arc, les stabilisateurs. Pourquoi? Parce que tu trembles un peu. Et pourquoi il faut stabiliser? Parce que si tu dévies d'un millimètre, qu'est-ce qui se passe? C'est 5 cm sur la cible. C'est 50 cm sur la cible. Ça fait beaucoup un millimètre. Petite vibration, tu mets des stabilisateurs parce que tu as peur de vibrer un peu. Le millimètre de déviation que tu as, c'est rien un millimètre ici. C'est hors de la cible à la destination. Quelqu'un dit, il y a le choix comme vous, venir une semaine à la yeshiva en été. Elat, la yeshiva, elat. Enfin, il y en a qui font les deux, d'accord, mais il y en a qui dit que elat. On prend une semaine plus à la yeshiva. Toute cette semaine, il prend un peu plus de Torah, un peu plus de proximité. Il ne se rend pas compte qu'est-ce que ça a comme impact. Quelqu'un qui prend sur lui de se renforcer en Torah, c'est bien simple. Il y a deux sortes de personnes. Celui qui stagne Et les gens croient avec erreur que stagner, c'est ça. C'est faux, c'est ça. Quand on stagne, on descend. Nous, on apprend cela. C'est par exemple dans la Torah, que lorsque les fils de Jacob, les frères de Yosef, ont voulu le jeter dans le trou. Alors c'est marqué Habor Rek en Vomaim. Le trou est vide, il ne contient pas d'eau. Demande Chazal, c'est lui qu'il est vide. Et c'est clair qu'il ne contient pas d'eau. Pourquoi tu me répètes? On ne répète jamais rien pour rien dans la Torah. Alors on me dit, il est vide, et de l'eau il ne contient pas. Mais il contient autre chose. Des serpents et des scorpions. La Torah rajoute le mot, il ne contient pas d'eau, c'est-à-dire de l'eau il ne contient pas. Sous-entendu, il y a autre chose. C'est-à-dire, ou tu es plein d'eau, l'eau c'est la Torah, ou tu peux dire je suis vide moi, je suis neutre. Où il y a de l'eau, où il y a des scorpions et des serpents. Où tu montes, où tu descends. Quelqu'un qui décide maintenant, dans sa vie, au niveau où il est, il commence à faire kippour. Bon, c'est pas le niveau du grand chassid, d'accord. Il faisait pas kippour, il fait kippour. Il jeûne à kippour, même sans aller à la synagogue. Ben, par rapport à Dieu, il est déjà en montée. C'est une montée. C'est clair que Dieu, j'ose pas dire une chose aussi simple, Dieu est intelligent, on est d'accord là-dessus. On ne peut pas demander à tout le peuple juif, tout le monde demain, à la yeshiva, chassid, super orthodoxe, pas une erreur. C'est complètement utopique. Donc je le sais très bien. Demain vient Mashiach. Dans Hashem très bientôt. Ou quelqu'un, il a fini sa vie. Et il va se faire juger. Comment on va le juger? Demain vers Mashiach. Il y aura, c'est marqué, Yom Hadin Vanora, le jour du jugement. Terrible. Dieu va prendre en compte tout, qui, quoi, comment. Comment il te juge? Mais juste très simplement, où était ta marge de choix? Qui pour, pas qui pour? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Qui pour? Tu as monté? Chacun. Dans sa vie, il a un choix qui est millimétrique. Plus haut que ça, c'est tout à fait hors de son champ de vision actuel. Plus bas que ça, c'est pas lui non plus. Lui, c'est. Et là-dessus, on va le juger. Est-ce que tu as fait le bon choix ou tu es resté neutre, c'est-à-dire chut, la pente. Donc, à votre âge, messieurs, responsabilité colossale. Dans quelques semaines, mois, années, vous vous mariez. Beaucoup de gens m'écrivent tout ça, qui est mon mazal, qui est mon zivouk, etc. C'est pas, il n'y en a pas un. Dieu a pris pour toi au moins 4 zivougim. La tzadeket, la fille bien, la fille pas trop bien, et l'ordure. Il y a des ordures que Dieu a créées pour vous potentiels. Il y a des ordures féminines, des ordures masculines, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est logique. Dieu ne veut pas mettre un tzadéket avec une ordure, ou un tzadéket avec une ordure au féminin. Donc tu as des choix. J'ai mis entre la vie et la mort, choisis. Tu as le choix, la vie ou la mort. Tu choisis, mais en fonction, tu auras. Il n'a pas raté son mazal. Il a raté son bon mazal. Ou de façon mauvaise, Mazal, parce que tu as une meilleure qui t'attend. Mais c'est en fonction de qui tu es, c'est évident. On dit Zivouk Rishon, Zivouk Sheni. Premier Zivouk, première. Aujourd'hui, nous sommes tous des réincarnés. Donc c'est certain que nous sommes. C'est d'après nos actions qu'on nous amène une femme. Attends, ta femme, ça va influer sur qui seront tes enfants. Et sur toute ta vie. Et ta vie, c'est Olam Hazeh, Olam Haba. Olam Haba, c'est infini. C'est combien d'infini? Inimaginable. Un jour, Abraham Lintrak, il a pris l'exemple suivant. Il a dit, imaginons qu'on a dans la main des grains de sable. Tu vas à la plage, tu prends maintenant quelques grains de sable. Combien je peux mettre dans la main dans ma poignée de grains de sable. Combien je peux mettre de grains de sable? Dis un chiffre. 1 milliard? Non, quand même pas. 3 000? Je crois un peu plus. On va dire 10 000. Hein, 10 000 grains de sable. Donc je mets sur toute la table ici 10 cm de sable. Combien j'ai de grains de sable?
3 000,
hein, quelques millions, on va dire. Je remplis toute la yeshiva maintenant, messieurs, en marchant dans le sable. 10 cm. Combien de grains de sable? Quelques milliards. Je remplis toute la rue maintenant de 10 cm de sable. Combien de sable? Quelques triards. Je remplis tout Jérusalem de 10 cm de sable. Bon, on compte plus. Ça fait beaucoup. Je remplis tout Israël de 10 cm de sable. Je remplis toute la terre, pas de 10 cm. Je vide les mers. Je mets 100 km de sable autour du globe terrestre. 100 km de sable. Tout ce sable-là, je mets dans un grand entonnoir qui finit par un petit trou par lequel peut passer un grain de sable tous les 10 milliards d'années. Combien de temps ça va prendre que tout le sable s'écoule? Le temps que ça prendra, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins que l'infini. Et quand tu fais une mitzvah, ça a un impact infini. On ne parle pas maintenant de ta femme, de tes enfants, que c'est des milliards de mitzvot dans une vie. Qui ça va être? Tout ça, ça se joue maintenant. Maintenant. Il y a de quoi trembler. Et ce que tu es, c'est ce que tu produis. Ça n'existe pas l'éducation des enfants. C'est un... Ishtadlout, jouer la comédie comme si. Le gosse, l'enfant, il est imbibé, il absorbe ce qu'il voit à la maison. Pas le message qu'on va lui dire. Il voit. Il y avait dans une classe d'enfants de 6-7 ans. Un prof a demandé aux élèves quelle est la chose la plus importante qu'il y a dans la vie. Un répond la Torah, l'autre répond le Chesed, le troisième répond non, ses parents, le quatrième répond la DAF. Tout le monde éclate de rire, sauf le prof. C'est un bon élève, il a fait une analyse, tout ça, et pour finir, il a compris. Les élèves reçoivent chaque vendredi une petite feuille comme ça du Talmud Torah ou un parachat de Shavua. Et tout heureux de raconter à table un parachat. Alors ils racontent, et chaque Shabbat, au milieu qu'il est en train de raconter, la DAF arrive sur table. Alors son père dit, ok, c'est bon, amenez la DAF. Son père dit dans le discours, on demande, qu'est-ce qui est le plus important, la Torah ou la DAF? Vous me prenez pour vous rigoler? La Torah? Il a une barbe, il a un chapeau, tout ce que tu veux. Et sur le terrain, le gosse, il voit très bien. On arrive à Torah pour la DAF. Donc la DAF, c'est la chose prioritaire dans la vie. Ce que tu montres, ce que tu es. On ne peut pas bluffer son gosse. Si tu es coléreux à la maison. Si la Torah, de temps en temps, on biaise, on arrondit les angles. Alors pourquoi lui n'arrondirait pas? Un truc que j'en ai parlé des milliers de fois. On va refaire avec vous. Qui dans la salle, s'il vous plaît, messieurs, son arrière-grand-père qui vivait il y a un siècle, en l'an 1907, qui avait votre âge en 1907. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle dont son arrière-grand-père qui vivait à cette époque-là, ou arrière-grand-père, était non pratiquant, mais c'est pas le Shabbat. Très juif dans son identité, mais allumait la lumière Shabbat. Est-ce qu'il y en a un dans la salle? Si oui, qui lève la main? Personne. Bien qu'à l'époque, 70% du peuple juif était déjà non pratiquant. En Russie, il y avait le ferment de la révolution du printemps 1917, c'était juif. En Amérique, pas de Torah. En France, c'est déjà très très loin de la Torah. En Israël, on est en train de construire, 10 ans après le congressionnisme mondial, qui était complètement athée. On est en train de construire les bases d'un État athée. Donc il y a peu de Torah. Il y avait 30% du peuple juif était pratiquant. Vous êtes issu des 30%. Et dans 3/4 de famille, il y a déjà des mariages non-juifs. Comment ça se fait? C'est très simple. L'arrière-grand-père, il est hyper pratiquant. Il a du Maroc, Marrakech, de Colombéchard, de Constantine, de Tunis, d'Abel, je ne sais pas, et ou de Pologne, Varsovie. Et il monte, c'est monté en France. Et en France, il est pratiquant. C'est pas comme on met là, ou comme dans le ghetto à Varsovie. C'est France, on est émancipé, on est bien. Ben, il reste pratiquant. Et un beau jour, c'est un exemple que j'aurais plus souvent, je m'excuse, j'ai pas l'imagination de penser à un autre exemple. Il est enrhumé. Phase du rhume primaire, c'est la première phase du rhume où c'est pas encore d'éclair, sauf d'autres respects, alors qui bouche le nez, c'est la fontaine tout simplement, ça coule. Le mouchoir est nécessaire. Maintenant, à l'époque, pas de mouchoir à la synagogue. Lui se dit, qu'est-ce que je fais? Je vais à la synagogue sans mouchoir? Je peux pas. Alors j'en sais à la maison. À la maison, pratiquant, Shabbat, Kriyat Torah, Minyan, Parashat Shavua, je ne veux pas. Alors j'y vais, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'essuyer dans la manche quand même. T'imagines? Je prends le sidour, Baruch Ata Hashem, pic, sur le sidour. On me met la Torah, Baruch Ata Hashem, Baruch, pic, sur le Sefer Torah. C'est la honte. Un délébile, ça sortira toujours de mon nez. Que faire? Tu vas réfléchir, si bon, alors, rester à la maison, c'est inconcevable. Mitzvah est la synagogue, on ne peut pas porter. Là, c'est marqué où qu'on ne peut pas porter dans la Torah, marqué nulle part. Et les rabbins ont inventé ça. Puis nous, au Maroc, on portait. C'est vrai qu'ils portaient, parce qu'ils avaient la Mela était entourée d'une muraille, donc c'était permis. Et puis, il rajoute des choses sans cesse. Et puis, soyons intelligents, quoi. Qu'est-ce qu'il préfère Dieu? Je serai à la maison maintenant, me tourner les pouces, ou que j'aille à la synagogue en portant un mouchoir dans ma poche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué quelqu'un, j'ai transgressé Shabbat, j'ai allumé la lumière Shabbat, j'ai fumé Shabbat. J'ai un rhume. Puis la Torah, d'ailleurs, a été donnée où? Dans le désert. Là-bas, il fait chaud. Ce n'est pas des rhumes. Si Moshe Rabbeinu connaissait le truc, il leur dit, bien sûr, sois pas bête. Faut pas être bête. Faut pas être carré. Donc il prend son mouchoir dans la poche. Petite entorse au règlement. Pas si grave. Le Shabbat quand même, des rabananes. Mais à part ça, il est clean, il fait tout comme il faut. Bon, il grandit, il se marie, il a un enfant. L'enfant, bien sûr, il écoute le Torah de temps en temps, pour un temps de pratiquant. Et Shabbat, il prend par la main, ils vont ensemble à la synagogue. Quoi de plus beau? Sur la route. Notre arrière-grand-père qui est enrhumé chronique sort son mouchoir, se mouche. Le gosse voit, papa, tu portes un mouchoir dans la poche, Shabbat, dans la rue. C'est interdit. Je ne comprends pas. Les rabbins ont dit, le rébé m'a dit, au Talmud Torah qu'on ne pouvait pas. Et moi, je vois que tu peux, alors je ne comprends pas. On peut ou on ne peut pas? Question tellement lucide du gosse. La vérité sort de la bouche des enfants, dit le dicton. Absolument. Le père explique son argumentaire au gosse. Tu sais, mon fils, au Mela d'abord, on portait, et le rabbin m'a rajouté, et la Torah était dans mon Sinaï, je vais passer à la synagogue, puis j'ai avec toi, donc il faut aussi que je t'éduque, et je vais pas rester à la maison, donc là, et le désert, mon cher rabbin, ouais, il faut pas être carré là. Bon, le gosse l'a compris. Qu'est-ce qu'il a compris, le gosse? Que la Torah, quand il y a nécessité, on peut arrondir les ongles, c'est pas absolument dans tous les cas carré.
On peut.
Faut pas être tête dans le mur. Ouvert. Intelligent, c'est une tour intelligente. Ok. L'autre gosse grandit. Il a 25 ans. Et un beau jour, il va à la synagogue, Shabbat, Kamouvan. Bien entendu. Et il peut des cornes. Il fait 0 degré. Une demi-heure de marche pour arriver à la synagogue. Il arrive à être trempé. Pneumonie assurée. Dilemme, que faire? À la synagogue ou rester ici? Il réfléchit. C'est à la synagogue, rester à la maison. Tire ta Torah, pas je vois. À la synagogue, c'est impossible. Je suis tombé malade, la Torah ordonnée. Venez, shmartem me'od nefotechem, vous garderez votre corps en bonne santé. Mitzvah de garder en bonne santé. Je n'ai pas le droit de faire une chose pareille. Alors je reste, mais c'est interdit non plus, il faut aller à la synagogue. La vraie réponse pour ceux qui posent la question, d'accord, tu restes à la maison. Ni Kriyat HaTorah, ni Tefillah Beit Tzibour. C'est mieux de rester à la maison que de transgresser le Shabbat, même d'un millimètre de millimètre. C'est clair. La halakha, c'est comme ça. Mais notre grand-père, cette fois, très intelligent, se dit, Eureka, la bagnole. Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la bagnole. Et c'est un jour de repos, Shabbat. Pourquoi aller à pied ce qu'on peut aller en voiture? Dieu m'aurait dit, mais arrête de faire le crétin, tu vas pas aller sous la pluie une demi-heure à pied, tu vas tomber malade, c'est idiot, t'as une voiture, tu fais juste comme ça, et t'avances, assis. Pourquoi Dieu a fait qu'il y ait les bagnoles dans le monde, si c'est pas pour ça? Dieu est heureux qu'on dise maintenant sa création pour l'honneur de la Torah. Et écoutez, la Torah Shabbat à la synagogue. Et mon père m'a bien dit que Moshe Rabbeinu et Dieu étaient intelligents, ils comprennent très bien. Pas vrai Dieu, tu comprends? Il faut être moderne, normal. On n'est plus dans le ghetto. Et il prend la bagnole et il roule, tout content. Sur la route, il voit le pauvre rabbin sous la pluie, rien compris, c'est le Moyen-Âge, obscurantiste. Je vous le fais en mastic, hein. La génération d'après, le papa, qui douche. Chérie, baisse le son de la télévision, je fais le kidouche. On allume les bougies de Shabbat, mais très souvent en hiver, après l'entrée de Shabbat. Parce qu'on rentre plus tard du travail, dernière seconde, hop, on allume les bougies. Enfin, Shabbat sans bougie, ça ne sait pas. C'est déjà la nuit, ça va. Alors qu'est-ce qu'on garde? Les traditions culinaires. Daf pour Marocain, couscous boulette pour Tunisien, avec Pkela, bifit et fiche pour les Ashkenazim. Voilà, grosso modo. Ça reste, ça on est juif. Les smachot, brit mila, bar mitzvah, mariage, et l'olenu, enterrement. Yom Kippour, bien sûr. Rosh Hashanah, on écoute un peu le chauffard. Tchab B'Av, on ne sait pas ce que c'est. Le soir de Pessah, toute la réunion familiale. Il y a un seder. Le seder, c'est l'ordre. C'est très désordonné. C'est familial, au moins on est ensemble. Hanouka, on allume un peu les bougies de temps en temps. Et Christine, non. Un peu pour s'amuser, même pas. Mais comment on fait en France? Il n'y a pas trop de choix de juifs, toujours les mêmes qui reviennent. Alors on va, l'été en Israël, la bonne des foules. La Taïlette à Tel Aviv, la Taïlette à Natania, la Taïlette à Eilat. T'as le choix. Là, tu te défoules. Génération d'après, à la fac, ou au travail, Christine. Elle fait un clin d'œil, elle avance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'amuser un peu. Je ne vais pas déshonorer une juive, comme ça il y en a qui me disent. Et puis, c'est plus facile avec elle, pas, les juives sont un peu compliquées. Pour s'amuser un peu, et puis la génération d'après, ou la même génération, parce que je vous fais en très long, Christine, 6 mois, 1 an, 2 ans, toujours pour s'amuser, 3 ans pour s'amuser, 4 ans pour s'amuser, après on ne s'amuse plus du tout. Et un beau jour, on va voir papa et maman, on dit papa, maman, Christine et moi, une bonne nouvelle à vous annoncer. On va se marier. Et le père dit au gosse, mais mon fils, mais quoi papa? Elle n'est pas juive. Papa, je crois, c'est un singe. C'est un singe, Christine. Tu la connais. C'est une fille bien. Je suis heureux avec elle. Pourquoi pas? D'abord, elle adore les juifs. La DAF ne dit pas maman, je ne vais pas la vexer, maman, elle fait mieux que maman. Je vais en Israël, elle veut habiter Israël. Yom Kippour, j'aime la synagogue, elle trouvait ça tellement solennel, tellement beau. Elle m'a raconté, Rachel, Rivka et Léa, qu'est-ce que vous avez dans la Azrat Nashim, dans l'étage des femmes? Elle papotait. Elle ne comprenait pas comment, un jour, tout le monde est en train de prier, elle papote. Elle a pris Christine, elle a pris le sidour, à l'envers, c'est pas encore comme on lit. Mais elle a essayé de voir quelque chose, Christine. Brit Mila, des enfants gosses de Christine, elle accepte, c'est bon. On fera avec un chirurgien à l'hôpital, elle est d'accord. Sort de Seder, on le fera, elle viendra, Christine, au Seder avec tout le monde. Au nom de quoi le père va dire non à son fils? Au nom de quoi? Ce qui fait le père, le fils y fait aussi avec Christine et en mieux. Et on arrive à 18 millions de Christine. Alors, qui est responsable de ça? Le gosse, pourquoi pas, il a raison, à son niveau. Pourquoi pas, ce qu'il a reçu, il fait. Le grand responsable, c'est le premier de la dynastie, l'arrière-grand-père, 1907, qui a fait une petite entorse au règlement. C'est pas grand-chose, ok. Mais ça correspond à des dizaines de milliards d'années-lumière. Pourquoi? Parce qu'il est passé d'une loi qui est absolue, kadosh, sacrée, Dieu. Je peux changer la Torah de Dieu. Je peux, moi, échanger la Torah de Dieu. Touche pas. Absolue. Et dire, il a changé. Il a dit, moi, je fais une Torah humaine. Il y a Dieu, mais il y a moi aussi. On va arrondir les angles. C'est ça la différence. Où t'en es? Si ton gosse, si toi dans ta vie, et ton gosse sera comme ça, tu comprends quelque chose qui est sacré, et tu vas dans le sens. Personne ne peut être parfait, tout faire. Personne. Mais il y a une très grande différence si tu dis maintenant, moi j'avance vers ça, je comprends qu'il n'y a que ça, et j'avance. Ou tu dis, mollo, mollo, mollo. Il y a ça, mais il y a ça aussi, il faut. Les deux ensemble. La Torah, c'est pas absolu. C'est, ça va, il faut s'accommoder à notre époque. Le juif, il est toujours anachronique. Il mange différemment, il shabbat différemment, il s'habille différemment, il ne tord pas la main à une femme, il ne fait pas la bise à une femme. Un zombie. En tant que juif, tu es un zombie dans ta génération, toujours. Si tu es un juif, juif. Tu peux dire à Dieu, écoute, Dieu, c'est trop dur. Je ne vais pas vivre, je vis avec mon temps. C'est toujours dur d'être juif. Toujours. Et ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était vivre en Sibérie, avec la menace de faire une mitzvah, tu risquais je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu risques quoi? Mais néanmoins, il y a un effort à faire. Tu peux dire à Dieu, Dieu, écoute, je ne peux pas, ta Torah est trop dure. Je vais avec mon temps. Dieu dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mon vieux. J'ai besoin de toi la vie et la mort. Choisis, moi je te conseille, choisis la vie. Tu veux la mort, prends la mort. Tu es avec ton temps, vais avec ton temps. Mais un beau jour, ton temps, il va passer. Et toi, tu vas passer avec ton temps. Tu vas passer avec ton temps, tu vas crever avec ton temps. Pardon ?
Toujours aidé,
toujours aidé. Bien sûr. C'est marqué, celui qui vient s'impurifier, on lui ouvre la porte. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Il y a une aide. Descendre, tu peux. Monter, on t'aide. Alors, comment ça fonctionne? C'est pas que tu veux monter, hop, tu te trouves au 10e étage. C'est toi qui vas faire le premier effort. C'est l'ascenseur, le bon Dieu. Tu fais un pas. Tu te mets dans l'ascenseur. Après, tout le monde ouvre au centième étage. Mais le premier pas, il faut le faire. C'est toi. Et tout seul. Dieu peut te tendre une perche, te montrer, coucou, c'est là que ça se passe. Mais l'effort à faire, le premier, après, il y a un feedback de Dieu. Quelqu'un d'autre peut dire, écoute Dieu, ta loi, elle est difficile. C'est dur d'être juif, comme il faut. C'est dur. Je préférerais bien vivre avec mon temps. Mais ok, j'ai compris, je fais partie d'un peuple éternel. Une chose qui est absolue, qui traverse l'histoire. Je suis hors du temps. Hors du temps, on est un peuple éternel, c'est clair. Je me hisse au-dessus des contingences de ma vie temporelle. Le temps passe, je reste. On est juif depuis 3200 ans. Ceux qui sont restés. Quel critère de rester ou pas? Dans quelle mesure t'es adéquat par rapport à la Torah de Dieu qui est une Torah éternelle? Tu te branches à l'éternité. Quand tu fais la Torah, quand t'es adéquat, tu te branches à l'éternité. Tu t'en dégages, tu te perds. Et ça finit avec la Goya. Le mouvement libéral, de libéralisation du judaïsme, plus cool. Ben, c'est très clair là-bas. On ne connaît pas de petit-fils juif ayant un grand-père libéral. Toutes les personnes libérales, leur petit-fils, il est goy. Parce que c'est pas la Torah de Dieu, c'est ta Torah à toi. Il n'y a pas de promesse. Il y a la promesse d'éternité du peuple juif. Sur qui? Sur ceux qui font la Torah. Maintenant, au prochain, il y a un retour. C'est pas que c'est la grande dégringolade. Il y a aussi un retour. Mais combien reviennent? Sur combien qui sont finis dans les bras de Christine? Comment ça se joue ça? Ça se joue aujourd'hui. Dans tes choix aujourd'hui. Donc, à mesure, tu deviens adéquat. Il dit pas, moi, Christine ne me touchera pas. Toi, pas de problème. Mais ton petit-fils. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Le grand-papa. Alors, il fait moitié-moitié. Alors, le père, le fils du grand-père, il fait la moitié de la moitié, le quart. Petit-fils, il fait un huitième. Et voilà, huitième, Christine, la porte est ouverte. La seule vraie prévention à Christine, c'est renforcer notre Torah. Ok, messieurs, des questions?
Comment on fait une création?
Pardon?
Comment on fait une fois que c'est déjà...
Puis, j'ai pas de solution. Pour le cas où c'est... Il faut prier. Prier. Essayez de... Il y a des cas. J'ai eu un cas, une fois, une femme est venue à un séminaire, mariée avec un non-juif, et le soir même du séminaire, elle a arrêté. Mais c'est des cas exceptionnels.
La même vision, le juif est une juive.
Ouais, c'est la même chose. C'est vrai que si la femme, elle est juive, donc les enfants sont juifs. Mais comment les enfants, ils vont sortir alors que le père, il n'est pas juif? Dans quelle mesure il va faire la Torah? Bien qu'aujourd'hui, il y a un grand réveil. J'ai beaucoup de gens ici dont le père n'est pas juif. Et tu vois très bien, c'est très, très clair dans la famille. Qu'un des deux, ils sont deux frères ou deux sœurs. Un des deux, il plonge dans le judaïsme et l'autre, il est out. C'est-à-dire que du ciel, c'est vrai. Il y a des étincelles. Dieu veut que ça continue quelque part. De toute façon, chez les convertis, le type, il est déjà complètement non-juif. Mais il a un grand-père qui était juif, tac, ça ressort. C'est des étincelles. Même quand elles partent dans le monde non-juif, elles doivent revenir. Parce que les étincelles juives sont éternelles. Elles doivent revenir. Quelque part, elles reviendront. Mais par quel chemin et par quel... On peut aller tout droit, on peut aller tordu. À la fin, tout le monde arrivera à son tikkun. Dans le peuple juif, il y a 600 000 âmes. Nous sommes des morceaux d'âmes. Des milliards, des milliards. Il est impossible qu'à la fin de l'histoire, c'est donc après, parce que c'est encore très très métier, c'est vraiment à la fin, il manque un millimètre d'âme du peuple juif. Impossible. Donc tout le monde arrivera à son tikkun. Mais par des chemins, des fois, extrêmement, extrêmement difficiles. Que Dieu en préserve, HaShem, que tout peuple d'Israël fasse tshuva, bimar v'emano, et sang, qu'il y ait besoin qu'il y ait du sang qui coule, que les gens comprennent par le dat, par la conscience, et non par les coups. Baruch Adonai, l'homme de l'homme.